La voie est libre.
Sabine de Rosière.
Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre. On parle souvent des surdoués chez les enfants, mais assez peu chez les adultes. Il apparaît qu'être supérieurement intelligent peut devenir un vrai handicap. Qu'est-ce qu'être un adulte surdoué ou HQI, haut quotient intellectuel? Comment apprendre à vivre avec ce potentiel si fort, mais qui peut pourtant rendre bien malheureux à certains égards? Pour en parler, je reçois Monique de Kermadec. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, auteure de L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué, chez Albin Michel qui vient tout juste de sortir. Et puis nous serons également avec Thierry Brunel qui est responsable de la communication externe de Mensa France, qui est une association de groupes d'échange de surdoués. Alors comment vivre quand on est un adulte surdoué? On en parle ce matin dans La Voix est libre. Appelez-nous, n'hésitez pas, 01 56 2 fois 44 2 fois pour participer, témoigner, poser vos questions. Dans cette Voix est libre, mes invités vous répondent comme toujours. Monique de Kermadec, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères pour définir qu'un adulte est un adulte surdoué ?
Je dirais que le premier critère est avant tout la différence que remarque le monde extérieur. C'est quelque chose d'assez flou, mais bien souvent dans le milieu du travail ou en société, les personnes vont remarquer qu'un adulte se comporte différemment, pense différemment, s'exprime avec une intensité qui est peut-être un peu inhabituelle. Et c'est peut-être la première chose que l'on remarque. Après, c'est certainement un mode de pensée, une façon de gérer l'information qui va frapper la personne qui est en face d'un adulte surdoué.
Alors, est-ce que justement, vous venez de le dire un petit peu, c'est l'entourage finalement qui va se rendre compte que l'adulte est surdoué plutôt que lui-même ?
La différence peut se percevoir des deux côtés. D'un côté, le monde extérieur perçoit que la personne n'est pas exactement comme elle ou ne réagit pas comme elle. De l'autre côté, l'adulte peut se sentir en décalage, peut avoir l'impression que il n'est pas tout à fait tel que les autres l'attendent.
Alors, est-ce que un surdoué, c'est un génie ?
Non, je crois qu'il ne faut pas confondre de très fortes capacités intellectuelles et un génie. Il y a peut-être un génie ou deux par siècle, mais ces fortes capacités intellectuelles, si elles sont bien investies, peuvent permettre effectivement d'accomplir des choses remarquables.
Mais quel genre de choses remarquables ?
Dans différents domaines, on pense souvent à ce que les études permettent de faire, mais on peut être surdoué dans des domaines artistiques ou dans des domaines sportifs. C'est-à-dire
dans le sport, on va définir que quelqu'un est surdoué.
Il n'y a pas qu'un entraînement. On connaît des enfants, des adultes qui pendant des années sont entraînés avec un ballon de basket ou à la course et ils ne deviennent pas nécessairement le marathonien du siècle. Au talent doit s'ajouter un certain temps d'exercice, bien sûr, mais il faut ce talent à la base.
Il faut ce talent à la base. Est-ce que être surdoué, c'est comprendre plus de choses ou les comprendre plus rapidement ?
Pour moi, c'est avant tout un regard différent sur le monde. C'est la capacité, certes, à comprendre les choses, à les comprendre parfois rapidement, de manière étonnante pour les autres.
Alors, est-ce que quand on sait pourquoi, dans une même famille, une personne sera surdouée et puis pas les autres ?
On parle souvent de facteurs génétiques, cette intelligence, pendant longtemps, on a cru était essentiellement héréditaire. Avec les travaux récents, on se rend compte qu'il y a bien souvent plusieurs surdoués dans une famille, qu'ils soient identifiés ou non. Et le milieu, le contexte culturel va favoriser, bien sûr, l'épanouissement de cette intelligence.
Alors, certains adultes surdoués n'ont pas toujours été diagnostiqués comme enfant surdoué. Est-ce que quand on est adulte surdoué, on a nécessairement été un enfant surdoué ?
Oui, c'est une question qui est souvent posée. Bien sûr, un adulte surdoué est un ancien enfant précoce. L'intelligence ne vient pas comme ça spontanément à un moment d'une vie. Dès l'enfance, on aurait pu remarquer certaines choses.
Alors, Thierry Brunel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la communication externe de Mensa France, qui est une association de groupes d'échange de surdoués. On parlait tout à l'heure de facteurs génétiques. Quand on est surdoué, vous, c'est le cas dans votre famille ?
Alors, ma famille n'a pas plus d'intérêt que ça, mais effectivement, c'est quand même dans 80%, d'après les statistiques, 80% des cas, une transmission génétique, et on constate chez Mensa beaucoup de familles, en fait, effectivement, de gens qui viennent avec leurs enfants. Même si Mensa n'est pas à proprement parler une association de parents d'enfants, il y a des associations très bien pour ça.
Et alors, justement, Mensa, il y a que des surdoués dans cette association ?
Alors, le critère d'entrée à Mensa France, en fait, est assez large, puisqu'on peut arriver soit par des tests réalisés par des psychologues, soit par un test réalisé chez Mensa, après avoir réalisé un pré-test en ligne qui vous donne déjà une bonne indication. Donc voilà, le critère est assez large, puisqu'en fait on parle de quand même 2% de la population, c'est-à-dire un peu plus d'un million de Français.
Donc 2% de la population qui serait à haut quotient intellectuel.
Tout à fait, en fait c'est exactement la définition, c'est-à-dire qu'on teste les gens sur 11 dimensions de l'intelligence, donc vous avez beaucoup de gens intelligents qui doutent d'eux-mêmes, parce qu'effectivement sur une des dimensions, ils ont identifié quelqu'un de plus intelligent qu'eux. Comme disait Einstein, on est toujours l'imbécile de quelqu'un sur quelque chose, et donc c'est pas pour autant qu'ils ne font pas partie de cette population et qu'ils n'ont pas besoin de se retrouver avec des gens comme eux. Un petit peu comme dans l'histoire du vilain petit canard où le cygne retrouve sa famille de cygnes.
Et est-ce que vous, on va parler un petit peu de votre histoire par exemple, ou pas particulièrement, mais enfin bon, vous allez donner des exemples de gens qui sont dans votre association. Comment est-ce que vous étiez un enfant déjà surdoué?
Écoutez, j'avais un an et demi d'avance, comme beaucoup d'entre nous. Mais il y a aussi des gens qui sont en total échec scolaire, qui se bloquent à la cinquième ou à la seconde. Donc, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas s'arrêter sur l'exemple d'une seule personne. Les cas sont extrêmement divers en fonction du lieu d'habitation, en fonction du nombre de précoces par classe dans l'école où se retrouve l'enfant. Ce qui veut dire que finalement, dans les quartiers, j'ai rarement d'appels de mères inquiètes quand leur enfant est dans une bonne école, parce que généralement, il se retrouve avec d'autres enfants un petit peu comme lui. Donc il n'est pas tout seul parmi des canards, pour reprendre mon analogie de tout à l'heure. Il est cygne parmi les cygnes. En revanche, effectivement, dans certains quartiers, l'enfant est un peu le bouc émissaire de la classe. Et ça, c'est grave. Et ça, il faut parfois intervenir de façon urgente.
Monique de Kermadec, par rapport à ce que vient de dire Thierry Brunel sur le fait que parfois, ça peut devenir vraiment problématique au regard des autres dans la classe.
Tout à fait, parce que les autres enfants comprennent mal, je dirais, d'abord l'intérêt, la curiosité, le désir spontané de participer. Et puis, les autres enfants n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Moi, je me souviens d'une petite fille en maternelle qui avait été mal jugée par sa maîtresse parce qu'elle ne voulait pas chanter les chansons à l'époque de Chantal Goya. Les autres étaient ravis de chanter ces chansons et elle préférait faire autre chose. Et la maîtresse trouvait que cet enfant n'était pas du tout là où on l'attendait et qu'elle avait quelque chose de bizarre. Plus grand, on va avoir une incompréhension parce que les enfants vont attendre une attention aussi plus soutenue de la part de l'enseignant qu'ils ne reçoivent pas toujours.
Thierry Brunel.
Oui, à ce sujet d'ailleurs, il y a une étude remarquable qui avait été faite par une ancienne enseignante d'école alsacienne qui s'appelle Marie-Noëlle Girolami. Et Marie-Noëlle Girolami avait classifié les enseignants en trois catégories. Elle avait dit finalement, il y a ceux qui connaissent le sujet et qui sont bienveillants envers les élèves. Et là, c'est formidable parce que ça porte l'enfant. Il y a ceux qui sont bienveillants, mais qui n'ont pas de compétences spécifiques. Et là, effectivement, il faut qu'ils en acquièrent, sinon ça pose des petits problèmes. Et puis enfin, il y a une grande population qui, dit-elle, pour des raisons généralement inconscientes, soit sont déstabilisés par cet enfant qui va poser des questions insolites, va les déstabiliser sur leurs compétences de professeur, ou bien se comporter différemment, les renvoie au fait qu'eux-mêmes ne sont pas surdoués, que leurs enfants ne sont pas surdoués. Et donc, en fait, tout ça, ça se passe de façon inconsciente. Ils vont descendre avec leur puissance d'enseignant sur l'enfant qui va se retrouver une victime du professeur. Et là, le rôle des parents est essentiel, parce que le message des parents, c'est ça n'est pas la matière que tu détestes, c'est simplement le professeur. Et ça, éventuellement, c'est acceptable, pour autant que tu sois poli, courtois avec lui, etc. Mais en revanche, ne jette pas le bébé avec l'eau du bain et continue à travailler cette matière parce que tu en as besoin.
C'est pas toujours facile à faire quand même.
C'est pas toujours facile à faire.
Les enfants ont effectivement tendance à associer la matière avec le professeur. Il y a un travail d'écoute à faire. Je crois que là, le parent doit aider l'enfant à acquérir de nouvelles stratégies pour bien s'entendre avec l'enseignant. Et eux-mêmes doivent être attentifs à la relation qu'ils ont en tant que parents avec l'enseignant.
Est-ce qu'il y a des surdoués dans toutes les classes sociales ?
Ah oui, alors ça, il n'y a absolument aucune distinction de classe. On en a des exemples tous les jours. Vous rappelez sans doute qu'on a un président de la République qui était garagiste. C'était pas tout à fait par hasard.
Vous ne parlez pas de Nicolas Sarkozy. Hein.
Non, je parlais de Pompidou.
il y en a dans toutes les classes sociales.
Excusez-moi.
La différence importante, par contre, c'est que l'accompagnement n'est pas toujours le même, hélas, et que pour des enfants qui commencent leur vie dans un univers où on n'encourage pas nécessairement les études, où on n'encourage pas l'éveil, comme on le fait aujourd'hui de façon de plus en plus importante, ces enfants, n'ont pas les mêmes possibilités d'épanouissement, d'où la scolarisation, je dirais, tôt, peut être une aide pour ces enfants.
Alors, est-ce que les adultes, comment est-ce qu'on définit ? Parce qu'il y a le test de QI qu'on connaît, tout le monde fait. Quelle valeur on peut lui donner, par exemple, les tests de QI qu'on fait sur Internet ? Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'il vaut mieux faire un test pour savoir
J'imagine que Thierry va dire que le test de la Mansa est quand même significatif et montre quelque chose, mais ce n'est pas un test de QI en soi.
Alors voilà, moi je pense quand même que la légitimité, c'est quand même le test dont je parlais tout à l'heure, où on teste 11 dimensions d'intelligence.
Voilà,
alors, il s'appelle WAIS ou il s'appelle WISC. En plus, il donne beaucoup d'indications sur les zones où on est surperformant. Donc par exemple, pour des choix d'orientation professionnelle, pour des choix d'environnement de travail, c'est absolument fondamental.
Oui. Alors, c'est quoi les 11...
Alors, il y a, en fait, des aptitudes verbales, la logique verbale, les capacités d'analyse et de synthèse, la mémoire à long terme. Il y a des aptitudes de raisonnement, je dirais, avec un support visuel, de raisonnement perceptif, la gestion de l'espace, les capacités de raisonnement analogique avec un support visuel. Il y a la mémoire auditive à long terme, à court terme, la mémoire visuelle aussi. Vous avez une logique mathématique. Dans les faits, comme soulignait Thierry, ce qui est très important, c'est que ceci vous révèle vos forces, mais aussi vos vulnérabilités. Donc, en fonction de l'âge de la personne qui est testée, on peut donner des conseils d'accompagnement. Pour l'adulte, bien évidemment, nous avons intérêt à investir nos forces, arriver à un certain point.
Thierry
Bonnel. Oui, je crois que c'est très important de se rendre compte que vous êtes face à une population qui doute énormément d'elle-même. Donc il y a par exemple une population chez Mensa de littéraires d'un niveau intellectuel extraordinaire, qui ont toujours été mauvais en maths et en physique, parce qu'à un moment, un peu comme je disais tout à l'heure, ils sont bloqués sur un prof, et donc ils ont réagi avec leur hypersensibilité, avec leur hypersusceptibilité, en disant « j'aime pas les maths, j'aime pas la physique », et tout à coup ils ont eu des notes très médiocres. Et qui en fait sont d'une intelligence absolument incroyable. Et on a aussi une population d'informaticiens qui ne s'intéressent qu'à l'informatique et qui ont une intelligence vraiment tournée vers ça.
Alors justement, on pourra sur les 11 points, sur les 11 critères que vous définissez, on peut être super bon dans un ou plusieurs, et puis vraiment très très mauvais dans l'autre.
On peut être en dessous de la moyenne française, puisque c'est vraiment un étalonnage par rapport à la moyenne de chaque pays. On peut être complètement en dessous de la moyenne d'intelligence des Français. Et c'est pour ça, rappelez-vous cette phrase, ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Vous avez certainement constaté autour de vous des personnes qui sont remarquablement intelligentes et qui sont complètement démunies sur certains actes simples de la vie.
Oui, vous pouvez être excellent par exemple dans un domaine littéraire, et puis être très mauvais en logique visuelle, par exemple. On sait très bien qu'Einstein, un génie des mathématiques, qui était dyslexique, a eu de très gros problèmes à l'école, a eu de très gros problèmes dans les matières littéraires, et dans les langues, l'apprentissage des langues étrangères.
Alors là, il y a effectivement un point qu'il faut qu'on aborde, c'est ce que les médecins appellent la comorbidité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, en fait, avec donc un problème médical, un autre problème médical qui va le masquer. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de recherche médicale qui est faite autour de ce qu'on appelle le TDAH, c'est-à-dire le trouble déficit d'attention, hyperactivité, impulsivité, qui effectivement affecte aussi une partie de la population des précoces. Et effectivement, ce trouble va, par exemple, impliquer un trouble oppositionnel avec provocation, où l'enfant puis l'adulte va être très provocant avec l'enseignant, puis simplement l'employeur. Donc on peut arriver à des problèmes sociaux graves, aussi bien enfants qu'adultes, simplement parce qu'un trouble en cache un autre. Et donc effectivement, c'est très très important d'arriver à ségréguer, à diagnostiquer différents tests. Et je vais vous donner un exemple assez classique. Une personne est anxio-dépressive parce qu'elle a rencontré des difficultés dans sa vie. Et à ce moment-là, elle essaye de se raccrocher à une bouée quelconque, et donc elle va sur Internet, elle passe les pré-tests, puis elle a le courage, parce que c'est du courage en tant qu'adulte, d'aller passer les tests chez Mensa, et elle rate les tests. Mais il est très important de savoir que parfois cette personne, elle était effectivement surdouée, et simplement, son anxiété, sa dépression, ou son défi d'attention, lui ont fait rater les tests.
Oui, il va avoir une influence sur les résultats aux tests. Il y a un trouble qui mérite d'être mentionné, et qui existe chez les adultes, et on n'en parle que chez les enfants, c'est le trouble de l'attention et l'hyperactivité. Vous avez des adultes brillantissimes qui sont hyperactifs, pour lesquels un certain accompagnement est nécessaire pour leur permettre de bien utiliser, bien intégrer leurs talents.
Qu'est-ce qui va être le plus difficile, Thierry Brunel et Monique de Kermadec, quand on est un adulte surdoué? Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre?
Alors en fait, quand on est un adulte surdoué qui n'a pas été diagnostiqué, qui n'a pas été accompagné, qui n'a pas bénéficié d'un environnement socio-culturel, familial favorable, on peut être assez loin dans des équilibres. Alors ça peut être dans la cocaïne, ça peut être dans la psychose, ça peut être dans la névrose, mais on peut être assez mal dans sa peau, même très très mal dans sa peau. Et donc c'est très très important de faire ce chemin du vilain petit canard qui se découvre joli signe. Parce que souvent, on sort du mal-être. Un cocaïnomane qu'on diagnostique comme trouble déficit d'attention et qui se met à prendre de la ritaline, bah, tout à coup il a sa dose de dopamine quotidienne, il n'a plus du tout besoin de sa cocaïne.
Oui, on peut même mettre l'intelligence au service du crime, on n'en parle pas souvent, et c'est un livre que j'ai envie d'écrire, parce qu'il y a des adultes surdoués qui ne trouvant pas leur place dans la société, ont continué à jouer, ont joué avec l'argent des autres, ont inventé des systèmes assez extraordinaires, jusqu'au jour, bien sûr, où ils se font pincer pour une raison ou une autre, mais fort heureusement, l'intelligence bien utilisée permet de réaliser des choses assez remarquables.
C'est un point tout à fait important, c'est-à-dire que tout à fait d'accord avec Monique, nous on le constate tous les jours, l'intelligence n'implique pas l'éthique, l'intelligence n'implique pas la morale, l'intelligence n'implique pas même le talent.
Bien sûr.
Je veux dire, c'est juste une note sur une échelle qui vous indique des capacités, qui vous indique un potentiel. Et après, ce potentiel, c'est comme une arme, il peut être bien ou mal utilisé.
Tout à fait. On peut avoir envie de jouer avec, on peut, d'autant plus que dans une vie où, je dirais, qui serait réglée comme du papier musique et où on serait amené à faire des tâches répétitives, la personne, pour survivre, a besoin de jouer avec d'autres choses.
Oui, parce que, est-ce que les personnes surdouées s'ennuient? Est-ce que c'est un critère, l'ennui?
C'est un sujet magnifique. Oui. Effectivement, les personnes surdouées s'ennuient, les personnes surdouées qui sont atteintes d'un TDAH s'ennuient encore plus.
Oui. Oui, parce que vous allez beaucoup plus vite que nous.
Ils ont besoin de nouveautés. Moi, je constatais chez de jeunes adultes qui venaient me demander d'être testés, que changeant régulièrement d'activité, passant d'un projet à un autre tous les deux ans, inquiète leur entourage, qui les voit comme des touches à tout, qui ne peuvent aller qu'au désastre.
Et tout à fait. Et là, vous avez des stratégies d'adaptation très intelligentes. Par exemple, je connais une personne qui dirige les finances d'une des grandes fortunes de ce pays et qui, en fait, a fini son travail à 10h du matin.
Non.
On sait jamais.
Secret.
Sait jamais, une travaillant dans un métier confidentiel. Donc, effectivement, elle a fini son travail à 10h du matin. Elle arrive à 8h15. À 10h, elle a effectivement fini sa journée de travail. Mais, éventuellement, on peut l'appeler toute la journée. Et que fait-elle? Eh bien, en fait, elle écrit. C'est-à-dire qu'elle est dans son bureau, elle écrit son livre. Sur un sujet qui n'a rien à voir, et donc elle occupe en fait, et donc en fait, quand vous donnez à la personne précoce une meilleure compréhension d'elle-même, elle va trouver des stratégies d'adaptation pour rester dans un cadre social acceptable, c'est-à-dire être présent au bureau de 9h à 19h ou de 8h30 à 19h, et en même temps pouvoir effectivement utiliser son intelligence. Moi, je me rappelle très bien, avant d'avoir compris à travers quelques livres tout ça, j'arrivais dans un cabinet de salle d'attente médicale, j'ai absolument rien d'attendre, et donc je comptais les lignes. Là, j'aurais compté dans votre studio le nombre de carreaux, vous voyez, qui sont là, il y en a quand même pas mal, mais en ressortant, j'aurais su exactement le nombre de lames dans les volets, le nombre de carreaux, etc.
Ça commencerait tôt en classe, ça, d'ailleurs.
Tout à fait.
Je pense que les enfants ont des stratégies comme ça pour survivre. Leur pensée va plus vite, les réponses sont déjà là dans leur tête, donc ils ont besoin de s'occuper, et ceux qui ne savent pas s'occuper sont ceux qui ont des problèmes et qui se font punir parce qu'ils se distraient, ils parlent aux autres. Mais dans le bureau, j'admire le cas de cette personne que vous mentionnez, parce que au moins elle fait ses heures de présence, donc les autres ne peuvent pas lui en vouloir. Mais dans l'entreprise, lorsque vous avez géré ce que l'on vous a donné à faire en un temps limité, vous ne pouvez pas faire accepter par l'équipe, du moins pour l'instant, que vous n'avez pas besoin de rester 5 heures supplémentaires.
Thierry Brunel, c'est la réalité pour les... Combien vous avez de personnes qui viennent chez Mensa France et qui vous parlent de ces mêmes réalités dont vous parlez, qui vont terminer de bosser au bout d'une heure et demie? C'est quand même...
Alors écoutez, énormément, et puis il y a aussi des gens, par exemple, qui ne savent pas se défendre, c'est-à-dire vous avez des grands chercheurs qui trouvent et qui se font, dont les découvertes sont appropriées par d'autres.
Ouais.
Ah, ça, c'est un grand classique aussi. Moi, j'en rencontre régulièrement qui me disent, etc.
Donc, ils sont dépossédés.
Complètement. Oui. Et ils ne savent pas se battre. Les enfants eux-mêmes se font généralement ou racketter, ou piller, ou souffrir, etc. dans des contextes, comme je disais tout à l'heure, un peu difficiles, où ils sont dans les quartiers défavorisés, où il y a peu d'enfants comme eux par classe. Où là, effectivement, le meilleur conseil qu'on puisse donner aux parents, c'est malheureusement déménager, ou en tout cas amener votre enfant dans une école d'un quartier différent. Quand c'est pas le cas, on trouve quand même des solutions. Il y a quand même des instituts spécialisés.
Un autre sujet. Oui, pardon. Excusez-moi.
Non, allez-y, Monique.
Ce que vous disiez me donnait envie de rebondir en repensant à une personne que j'ai vue hier soir, une femme assez brillante, qui me disait que dans son équipe, elle faisait partie d'un comité de direction, et comme elle arrivait rapidement aux solutions, et elle était la seule femme du comité de direction, elle arrivait rapidement aux solutions, les autres lui disaient qu'elle était superficielle, qu'elle ne prenait pas le temps de vraiment peser le pour et le contre d'un problème, et qu'il fallait absolument qu'elle devienne sérieuse et qu'elle prenne le temps d'arriver à ses conclusions.
Alors ça, c'est un très bon exemple, effectivement, parce que il y a des gens qui développent par rapport à ça des stratégies adaptatives et qui ont fini leur travail, mais qui vont pas le rendre. Qui vont donner l'impression qu'ils continuent à travailler dessus. Donc moi j'ai connu des gens comme ça, absolument extraordinaires pour montrer ça. Je vous donne un autre exemple. J'ai discuté avec un garçon récemment qui avait l'habitude d'aller nager entre midi et deux, trois fois par semaine. Et puis quand il rentrait, son directeur le regardait de travers. Donc à un moment il a fini par culpabiliser, il n'allait plus à la piscine ou plus très souvent, il a commencé à avoir du stress, etc. Ça s'est mal passé en son entreprise. Une fois qu'il a fait tout le chemin de comprendre qu'il était, comment il fonctionnait, etc., ce garçon s'est remis à aller à la piscine, et la première fois on l'a regardé de travers, il a expliqué à quel point c'était essentiel pour lui, parce que en même temps il était très rapide, en même temps le fait d'être très rapide est épuisant. Mm-hmm. Vous avez des gens qui sont capables de faire une réunion extraordinaire en 2 heures, mais qui sont littéralement, physiquement épuisés après. Et la meilleure chose à faire, c'est de les laisser rentrer chez eux et se reposer.
Donc là, il faut vraiment exercer un art de la dissimulation, quelque part.
Soit de la dissimulation, ou avec un peu d'espoir, arriver à convaincre les autres que le mode de fonctionnement que l'on a est un mode de fonctionnement acceptable aussi. Mais il y a une rivalité, il y a une agressivité des personnes d'une équipe qui, eux, ne fonctionnent pas selon les mêmes critères.
Oui, alors à ce sujet, on a fait tout un travail cet été à l'UNESCO de conférence sur ces sujets-là, et on a mis donc en accès libre sur le site de Mensa France un certain nombre de vidéos où effectivement on explique que par rapport à ça, il y a des contextes de travail qui sont plus favorables. Effectivement, comme le dit Monique, on trouve souvent une personne qui va avoir l'intelligence de comprendre et donc d'adapter et de défendre la personne qui finalement, c'est un petit peu comme si vous voulez un cheval de compétition. C'est en même temps incroyablement rapide et incroyablement fragile. Donc c'est une image comme une autre, mais en tout cas une fois que le directeur général, l'actionnaire, etc. a compris ça, généralement ça se passe très très bien. Mais en tout cas le premier acte qui est difficile pour une personne qui doute d'elle-même, c'est que la personne apprenne à se respecter dans ses biorhythmes et apprenne à respecter ses besoins physiologiques, effectivement, de pause, etc. Alors, vous avez des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir, des gens qui sont de la nuit. Je connais des gens qui ne développent jamais mieux qu'à 4 heures du matin. Vous avez des écrivains qui n'écrivent jamais mieux que tôt le matin ou tard le soir. Je crois que le message le plus important pour ces gens-là, c'est respectez-vous. Et imposez-le à votre entourage, non pas dans un bras de fer, mais intelligemment, en expliquant que c'est votre oxygène.
Je trouve vos images intéressantes, Thierry, parce que vous faites allusion au règne animal. Il y avait le singe, il y avait le canard, il y a le cheval. Dans les faits, je trouve intéressant parce que si l'adulte surdoué se distingue par ses capacités de penser, et peut-être parfois à mettre en mots, ses pensées, il est vrai que c'est ce qu'observe l'autre qui dérange le plus. C'est sans parole, je dirais, c'est le rythme, c'est la façon d'agir. Donc j'aime beaucoup vos images parce que tout en laissant de côté la part essentielle de leur personnalité, c'est avant tout le regard de l'autre qui va condamner ou qui va faire que la personne sera mise à l'écart.
Ça, c'est l'entourage qui porte un regard assez...
Qui porte un regard, mais un regard sur le comportement.
Oui, et c'est absolument important, parce qu'on vit en société, enfin pour la plupart d'entre nous qui ne sommes pas ermites et reclus et en train de méditer, nous vivons en société, et même, je dirais, même des moines qui seraient retirés vivent en société aussi, dans leur monastère. Donc je pense que il faut jamais oublier qu'on n'a que 1% de gènes différents avec le singe et 5% de gènes différents avec la souris. Mmh. Donc à 95%, 99%, on vit en société animale. Et le principal problème pour des gens qui ont des facilités intellectuelles, c'est de rester bloqués dans leur cerveau. Et donc, ils peuvent se couper leurs émotions, ce qui est assez dramatique, ou ils peuvent en tout cas être très mal connectés à certaines de leurs émotions. Mmh. Et c'est là où vous avez tous les problèmes, à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un, ça se voit très vite et ça se sent, quelqu'un qui est bien connecté à ses émotions, le travail principal, ça va être de mettre le doigt sur l'émotion qui est la moins facile dans la famille. Ça peut être la honte, ça peut être la culpabilité, ça peut être la colère, la tristesse ou la peur. Généralement, c'est une de ces cinq-là. Et donc, de faire un travail avec un professionnel comme Monique, de reconnecter cette personne à son émotion et d'arriver, je dirais, à avoir une sortie fluide. Et le succès d'un certain nombre de groupes comportementaux, de groupes de travail, etc., ça a été effectivement de donner des armes pour descendre du mental au physique et d'arriver à sortir émotionnellement, à vomir sa honte, à pleurer sa tristesse, à crier sa colère, etc.
Savoir gérer ses émotions, c'est important quand on est surdoué, un adulte surdoué. Si vous êtes adulte surdoué, si vous en avez dans votre entourage, n'hésitez pas à appeler 01 56 2 fois 44 2 fois. Mes invités sont là pour vous répondre, bien évidemment. On marque une petite pause et on se retrouve d'ici 2 minutes. À tout de suite.
La voie est libre.
01 56 56 44 44. 01 56 56 44 44.
Et retour dans La voie est libre. Pour ceux qui nous rejoignent, nous nous demandons ce matin: comment vivre quand on est un adulte surdoué? Pour en parler, je reçois Monique de Kermadec, qui est psychologue clinicienne, auteure de « L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué » chez Albin Michel, et puis Thierry Brunel, qui est responsable de la communication externe de Mensa France, qui est une association de groupes d'échange de surdoués. N'hésitez pas à appeler 01 56 2 fois 44 2 fois pour poser vos questions sur vous ou sur des personnes qui vous entourent, vos enfants, vos grands-parents. Je ne sais pas qui, mais peut-être des gens surdoués dans votre entourage, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à appeler. Thierry Brunel, quand on est surdoué, on perçoit le monde comment ?
Eh ben, on le perçoit avec un filtre. C'est comme si vous aviez une paire de lunettes en permanence. Et non seulement au niveau des yeux, mais au niveau de la parole. C'est-à-dire qu'il est très très important de comprendre pour un surdoué qu'il vit dans un monde où 98% des gens sont des canards alors que lui est un cygne. Donc il ne peut pas faire l'hypothèse, comme c'est très souvent le cas dans les gens qu'on rencontre à l'association, qu'en étant naturel et en parlant normalement, il va se faire comprendre. Inversement, quand vous allez au carnaval de Venise, vous avez un masque toute la journée, mais vous posez ce masque à la fin de la journée. Et c'est agréable de poser le masque. Et donc, tous les problèmes psychologiques graves dont je parlais tout à l'heure viennent du fait que le cygne a mis un masque de canard, mais il n'a pas conscience que ça n'était qu'un masque et un jeu social. Parce qu'une fois qu'il a conscience de ça, il s'en amuse, il en joue, parce qu'il a justement cette capacité de caméléon, pour filer la métaphore, à se transformer, etc., et à s'adapter à n'importe quel milieu. Et vous seriez étonné de cette capacité d'adaptation chez certaines personnes. Mais in fine, il faut que le soir, il reste ancré dans son identité, qui se retrouve avec des gens comme lui pour pouvoir souffler un petit peu. Et c'est très souvent ce que les gens viennent chercher chez Mensa, c'est pouvoir souffler un petit peu et avoir des activités sociales avec des gens avec lesquels on n'a pas besoin de porter de masque.
Alors, vous soulignez le masque qui est un point important. J'aurais envie de souligner qu'être surdoué, c'est donner un autre regard sur le monde. C'est une capacité de détection, d'indices, qu'ils soient, je dirais, verbaux, sonores ou autres. Une capacité assez exceptionnelle à détecter des choses qui vont vous amener à arriver à certaines conclusions qui feront que vous n'aborderez pas les situations exactement de la même manière que les autres. Cette capacité à détecter aboutit à une grande sensibilité, à une hypersensibilité que les autres parfois ne comprennent pas et disent « arrête de faire ton cinéma ou tu en fais trop ». Or, la personne n'en fait pas trop. La personne agit en fonction de ce qu'elle a décodé et de ce qu'elle peut craindre en fonction des conclusions qu'elle a tirées de ce qu'elle a décodé. Donc, ce point-là, moi, me paraît essentiel, puisque tous les adultes surdoués le ressentent. Au-delà de ce qu'ils pourraient, pour certains, être amenés à masquer, il y a quelque chose dont ils ne peuvent pas se défaire, qui est cette sensibilité et cette capacité à sentir les choses plus intensément.
Thierry Brunel. Oui, c'est ce que j'appelle les hyper. Vous avez l'hypersensibilité. Vous avez l'hypersusceptibilité qui va avec, et c'est généralement là où les relations sociales dérapent. Vous avez parfois, chez les enfants, c'est très frappant, l'hyperesthésie au bruit. Vous les voyez, par exemple, mettre les mains sur les oreilles quand il y a un petit concert qui ne gêne pas les autres. Et vous avez, pour certains, on en parlait tout à l'heure, l'hyperactivité aussi qui va avec. Et donc, en fait, toute la difficulté, c'est de démêler cet écheveau et d'arriver à adresser chaque sujet un par un, tranquillement.
Est-ce que Monique de Kermadec, quand les personnes viennent vous voir, des adultes, quelle est leur première requête ?
La première requête, c'est de pouvoir trouver une place plus confortable dans, soit dans leur relation intime, dans leur relation familiale, une place plus confortable dans leur vie professionnelle, mais c'est avant tout et surtout de récupérer quelque chose d'eux-mêmes qu'ils ont perdu, parce qu'au fil des ans, un grand nombre ont créé un faux self, ont essayé de se conformer à ce que le monde attendait d'eux, et petit à petit, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas aimés pour eux-mêmes. Et la plus grande demande, c'est d'arriver un jour à pouvoir être aimé pour soi-même. C'est un risque à prendre et un grand nombre n'ose pas le prendre tout seul. Donc ils viennent demander une certaine permission qu'ils n'ont pas reçue quand ils ont été petits, une permission d'être eux-mêmes.
Thierry Bonnel.
Oui, ce que vient de dire Monique est absolument fondamental. Je pense que les gens viennent à Mensa pour être acceptés tels qu'ils sont. Et très souvent, quand vous avez par exemple un parent non surdoué, qui, imaginons, j'ai un cas en tête, une mère qui, a, par exemple, adore une de ses filles et déteste une autre de ses filles qui se trouve être précoce. C'est assez catastrophique pour la personne. Et quand elle arrive à l'association, elle pousse un énorme mouvement de soulagement en disant « ça y est, enfin, il y a quelqu'un qui m'apprécie tel que je suis, qui m'aime tel que je suis ». Je crois que le premier message à donner aux parents et à l'entourage, c'est de pouvoir verbaliser un petit peu à l'américaine des messages de « je t'aime tel que tu es ». Et je vais vous raconter un exemple qui, moi, m'avait beaucoup amusé à l'époque, mais c'est vrai qu'on en perçoit aussi le tragique. Un jeune chercheur arrive à l'association, il avait 35-40 ans, et il me dit un jour, on commençait à se connaître un petit peu, il me dit, faut que je te raconte un truc parce que ça me hante depuis mes 17 ans. Alors je me dis, oh là là, ça va être un traumatisme, un viol, une agression, un kidnapping, quelque chose d'assez lourd, parce que bon, c'est un garçon qui avait l'air heureux, bien dans sa peau, équilibré, etc. Il me dit, voilà, j'ai dû mentir à mon meilleur ami. Et alors vous allez voir pourquoi ça a un lien avec ce qu'on raconte. Et je dis, ah bon? Et il me dit, oui, en fait, il ne me croyait pas que je n'avais pas besoin de travailler pour avoir les notes que j'avais. Et notre relation était en train de se terminer. Et donc je suis allé le voir, je lui dis, écoute, tu sais que je t'apprécie beaucoup, donc je vais te confier un secret, je travaille beaucoup pour avoir ces notes, mais ne le dis à personne. Et son ami lui a dit, je te renouvelle ma confiance et nous sommes à nouveau amis. Et ça lui a fendu le cœur. Et non seulement ça lui a fendu le cœur, mais ça lui fendait encore le cœur, puisque c'est un hypersensible, hypersusceptible, 23 ans après. Le fait que ce meilleur ami qu'il avait eu pendant des années soit en train de le quitter et qu'il ne puisse pas lui dire, qu'il ne puisse pas être aimé par son meilleur ami tel qu'il était avec son talent. Voilà, ça c'est... Alors ça a l'air d'être un luxe, comme ça. Mais en fait, ça c'est relativement bien vécu par un individu bien équilibré, mais ça peut être vécu de façon beaucoup plus dramatique dans des circonstances moins favorables.
À Mensa France, à partir de quel chiffre de QI on est accepté et
132, c'est
132.
Sur la nouvelle échelle qui va jusqu'à 160.
Et la moyenne française?
La norme 100. Est 100, toujours.
C'est toujours 100.
À test de QI.
Donc en dessous de 70, vous êtes considéré donc comme étant plutôt handicapé mental, mais entre 70 et 130, vous êtes quelqu'un qui a une intelligence tout à fait normale.
Et 132, on devient vraiment HQI.
Alors on est oui. Révélé comme c'est simplement une vérité de plus que la personne apprend sur elle-même quand elle commence.
Alors je suis toujours amusée qu'on parle de 130, parce qu'aux États-Unis, malgré tout où les tests ont été créés, on est considéré précoce à partir de 125, ce qui remet 5% de la population, ce qui élargit substantiellement le chiffre. En France, nous avons adopté, c'est vrai, de manière générale, le chiffre de 130 comme un chiffre magique pour parler de précocité chez l'enfant et chez l'adulte. Alors les deux petits points de Mensa, la petite marge de sécurité que vous octroyez est justifiée par...
Je vais vous dire, je pense que l'entretien avec la psychologue est encore plus important que les tests. C'est-à-dire que c'est plutôt dans la façon dont la personne raconte son histoire, dans la façon dont elle interagit avec les autres, dans la façon dont elle raconte ses douleurs, qu'une psychologue expérimentée va être capable de dire celui-là, il est ou il n'est pas. Et donc, il a besoin de se reconnaître comme tel ou pas. La valeur des tests, comme je le disais, est relative puisqu'elle dépend de la comorbidité avec d'autres maladies. Donc, vous avez quelqu'un qui est dans un trouble oppositionnel avec provocation, qui arrive avec une personne qui lui fait passer le test, qui lui rappelle une enseignante qu'il détestait, vous êtes sûr qu'il va planter le test. Vous avez un grand anxieux qui se gratte à longueur de journée les bras ou qui a le syndrome de la jambe sans repos et qui arrive et qui effectivement est un petit peu intimidé par une grande dame comme Monique de Kermadec, et bien vous êtes sûr qu'il va rater le test.
Personne n'est intimidé, je les accueille avec le sourire. D'abord, je tiens... Non, je dis ça parce que Vous savez très bien que lorsqu'une personne va aller passer un test, c'est un moment d'intense émotion. Donc généralement, ils arrivent et ils sont très inquiets. Et la chose absolument la plus importante, c'est de passer tout un temps pour parler avec la personne, pour lui montrer qu'on veut absolument la connaître, ce qui est réel, comprendre dans quel contexte elle veut passer ce test, ce qui est en jeu pour elle. Et après, on fait un certain travail. Mais c'est vrai que l'idée de dire « posez votre manteau et on va travailler » est toujours impressionnante. Tout adulte, même aujourd'hui, quel que soit l'âge, craint d'être jugé. Mmh. On voit ça de manière très forte chez les adolescents, puisque parfois, on doit s'y prendre en deux fois pour tester un adolescent. Le premier jour, il est tellement mal à l'aise que ses parents demandent une consultation qu'on préfère le revoir un petit peu plus tard. Mais on peut être un grand et quand même avoir peur et s'imaginer que cette personne va nous juger.
Et moi, je me rappelle très bien une anecdote que m'avait racontée une autre grande spécialiste du sujet, qui est Ariel Ada, qui a écrit les premiers livres dans les années 90. Et Ariel me disait, ben voilà, ce jeune garçon, il me répondait très mal à des questions très simples sur une des dimensions. Et comme je connaissais un peu le contexte familial, je m'en suis pas laissé raconter, je l'ai testé tout de suite sur des niveaux beaucoup plus compliqués, et là, il était très à l'aise. Parce qu'entre temps, j'avais pris le temps de le mettre à l'aise. Exactement ce que raconte Manique de Kermadec. Et donc, je pense que ça, c'est fondamental. La jeune testeuse, parce que on en a vu, par exemple, au début de Cogitos, il y avait des jeunes testeuses comme ça, qui sortaient d'école fraîches et moulues, etc., qui va juste appliquer sa grille, et puis dès qu'elle a une mauvaise réponse, elle passe à la dimension suivante. Ouais. Elle passe complètement à côté de l'enfant ou de l'adulte. Et donc, c'est très important aussi de dire aux auditeurs que si ils ont raté des tests et que eux, ils ont le sentiment qu'ils se reconnaissent dans les livres comme celui de Monique ou comme d'autres, il faut pas qu'ils hésitent une fois qu'ils ont été, à reconsulter et à être accompagnés, parce qu'il y a rien de plus dramatique que quelqu'un qui cherche qui finalement a trouvé, et puis le test lui dit mais non, vous l'êtes pas, et avec toute la froideur que peut avoir une jeune diplômée, et puis la personne, elle repart avec son problème qu'elle ne résoudra jamais, et je peux vous garantir que les cabinets de psy sont remplis de gens hypersensibles, hypersusceptibles. Il faut pas oublier qu'il y a peu de dans les grands mandarins, de gens qui se remettent en cause. Il y a beaucoup de gens qui sont restés à Alice Miller. Et Alice Miller, elle écrivait une chose importante en 1954. Elle disait, les surdoués sont des gens hypersensibles et à ce titre, leur vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais depuis 1954, il se trouve que beaucoup de choses ont été comprises et découvertes.
Ouf, on est en ligne avec Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors, nous vous écoutons.
Oui, voilà, ma petite fille est surdouée. Bon, on lui a fait faire des tests petites. Déjà petite, elle refusait l'école parce que elle était en avance par rapport aux autres et la maîtresse l'a freinée. Bon, maintenant elle a 17 ans, elle a eu son bac, mais elle veut vivre comme une adulte. Elle veut, et ça fait déjà un an. Alors c'est la guerre avec la maman. Moi je suis là au milieu, j'essaie de temporiser. Elle fait les choses rapidement. Donc sa maman ne la voyait pas travailler. Oui, tu vas échouer au bac, c'était le conflit. Finalement, elle a eu son bac avec mention. Maintenant, elle se consacre à la musique à fond, puisqu'elle a travaillé son bac et en même temps, elle travaillait deux instruments au conservatoire. Et là, maintenant, on a l'impression qu'elle se laisse vivre. Voilà, elle veut vivre avec les copains, les copines. On ne la voit pas travailler. Alors, on se demande moi, je me demande plutôt comment faut-il prendre cet enfant.
Eh bien, on va poser la question à Monique de Kermadec et Thierry Brunel. Monique de
Kermadec. Mais la première question que je serais tentée de poser, madame, c'est quels sont ses résultats au conservatoire? Est-ce qu'aujourd'hui...
Ah, très bien, très bien.
Bon,
alors... Vous voyez, elle avait un concours à passer pour à essayer de sauter une classe. Bon, elle s'est préparée un mois avant le concours et elle a été reçue. Alors, je me demande si, pour ces enfants-là, parce que là, la musique, quand même, l'instrument, c'est un travail, c'est une pratique en continu. Et elle fait ça comme ça en discontinu.
Oui, c'est un peu agaçant, c'est vrai, pour le commun des mortels.
L'inquiétude vient du décalage entre ce que les parents et ce que vous considérez être un temps nécessaire pour être un bon artiste et ce dont elle a besoin, elle. Il est fort probable qu'au travers des ans, elle va évoluer et qu'elle consacrera peut-être un temps beaucoup plus important plus tard. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dédramatiser, permettre à cette jeune fille de bien trouver sa place au conservatoire, car il va y avoir une compétition féroce et d'elle-même, elle se rendra compte quand elle va devoir fournir plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thierry, ouais. Mais ce sont les parents avant tout qui sont à rassurer pour l'instant. Oui.
Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, Daniel, c'est que probablement, effectivement, il y a une incompréhension entre la mère et la fille, et la mère, effectivement, vous fait part de cette angoisse parce qu'elle fonctionne de façon très différente. Et je pense que la première chose, c'est que votre petite fille a besoin de tout votre amour, donc votre petite fille a besoin d'entendre, même si elle vous paraît grande et qu'elle est plus grande que vous, que vous l'aimez telle qu'elle est et que vous lui faites confiance. Mm-hmm. Ça, je crois que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, c'est de lui dire que vous lui faites confiance. Et je pense qu'il faudrait inciter sa mère, si un jour elle le peut, à se comporter ainsi. Et la deuxième chose, c'est que je vous conseille de lui donner des défis, des challenges dans son domaine d'excellence. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a la capacité de faire beaucoup plus que ce qu'elle fait actuellement, puisque là, elle fait juste ce qu'il faut pour avoir des bonnes notes. Donc, inventer, peut-être avec un professeur de musique, peut-être avec des concours qui ont lieu dans la région, ou une rencontre que vous pourriez favoriser avec un grand interprète, inventez-lui des petits défis qui vont la pousser beaucoup plus loin dans son art et qui vont lui permettre, d'atteindre l'excellence dans son domaine.
Est-ce que c'est normal que la petite fille de Daniel se laisse vivre là après son bac?
Oui, pourquoi pas? Si ça marche encore pour l'instant.
Exactement, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure sur ce besoin de récupération. Vous rappelez l'histoire de la piscine? C'est-à-dire que la personne qui n'a pas besoin d'aller nager entre deux midi et deux pour décompresser ne peut pas comprendre que pour cette personne-là, c'est vital. Donc ce qui se passe actuellement, c'est elle est juste en train de souffler, c'est totalement vital pour elle.
Alors on est en ligne, merci beaucoup hein, Daniel de nous avoir apporté ce témoignage. On est en ligne avec Sylvie de Versailles, bonjour Sylvie.
Oui, bonjour. Moi je vous appelle parce que tout à l'heure j'entendais parler de masques pour les surdoués. Or je me demandais si par hasard certains surdoués n'utiliseraient pas leur intelligence supérieure précisément pour passer dans les failles juridiques. Vous parliez de crimes aussi tout à l'heure. Et quels seraient éventuellement les liens entre les surdoués et les pervers?
Alors, étonnement en studio.
On peut imaginer qu'il y ait des surdoués pervers. Là, c'est une structure de personnalité, mais on ne va quand même pas associer le fait d'être surdoué à la perversion. Je crois qu'il faut bien faire attention. Ceux que nous évoquions, c'est vrai, dans le crime, dans certaines situations, sont des personnes qui ont une structure perverse aussi, parce que elles ont le sentiment que, quelle que soit la situation, la règle s'applique aux autres, mais pas pour eux et qu'ils peuvent réinventer une règle. Dans cette perversion, l'intelligence, bien évidemment, leur permet d'aller plus loin dans leur projet. Mais surtout, je crois qu'il serait très dangereux d'associer une pathologie mentale, un problème de structuration de personnalité avec le fait d'être surdoué. On peut être surdoué et être tout à fait, je dirais, sain intellectuellement, même s'il y a souffrance.
Donc je dirais que de la même façon que l'intelligence traverse toutes les classes sociales, je crois que malheureusement, les pervers narcissiques manipulateurs traversent tous les niveaux d'intelligence.
Tout à fait. Alors ça, il y en a partout. Merci Sylvie pour cette question. Nous sommes en ligne avec Pierre de Nantes. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour madame. Oui, je vous téléphone au sujet de mon fils qui est relativement âgé, il a 45 ans. Il vient de se faire tester par madame Chiot-Fassin qui a découvert qu'il était un surdoué. Et bon, tout ce que vous avez dit dans l'émission est tout à fait correct, mais bon, il est très mal dans sa peau, il a été en échec scolaire, il est en échec professionnel, il est au chômage depuis plus de 2 ans, et donc il aurait besoin de rencontrer des gens comme lui sur Nantes, parce qu'aller à Paris c'est trop cher.
Bien sûr, alors là, vous avez...
Pendant tout ce que vous avez dit, c'est ça, avec un professeur de maths pendant sa scolarité. Eh bien, il aimait pas le professeur, il était nul. Après, il a eu un bon professeur, il a eu 18 sur 20. Bon, c'est un vrai problème, et c'est vraiment le vilain petit canard, quoi.
Alors, peut-être que Thierry Brunel va vous donner peut-être des noms pour Nantes.
Oui, oui, mais je crois qu'effectivement, il y a une association de Mensa régionale, donc on peut tout à fait, je dirais, encourager votre fils à s'inscrire à Mensa locale. Il y a aussi d'autres associations qui fonctionnent très bien, ça va dépendre un petit peu de ce qu'il fait. Ce qui est sûr, c'est que il faut lui donner le temps de faire son chemin personnel. Je pense que déjà, l'étape est fondamentale, d'avoir mis le doigt sur, effectivement, cette identité. Après, comme je le disais, il faut regarder la comorbidité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un trouble anxieux, est-ce qu'il y a un trouble dépressif, est-ce qu'il y a un trouble déficit de l'attention, hyperactivité, ça peut être très perturbant, effectivement, pour le travail, est-ce qu'il y a un trouble oppositionnel avec provocation. Donc je dirais que se donner du temps, peut-être 1 ou 2 ans, se donner de l'accompagnement, ça peut vous paraître très long, mais je pense que vous allez retrouver quelqu'un de beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein, et qui va ensuite pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite en conscience.
Et qu'en attendant, il n'hésite pas quand même à lire, à s'informer sur ce qu'est cette douance et comment il lui est possible de, par lui-même déjà, de faire un certain travail de reconnaissance, de connaissance de lui-même et de ne pas hésiter, si en fonction de d'autres troubles, de ne pas hésiter à demander de l'aide localement, aller voir...
Absolument. Je crois qu'il faut consulter. Et puis enfin, dernière chose, effectivement, comme le disait Monique, il y a beaucoup de choses sur Internet. Donc nous, on a fait l'effort sur Mensa France de mettre à peu près 20 heures de vidéos à disposition, effectivement, pour les gens qui cherchent, hein, sur la partie publique, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'être inscrit pour les consulter. On va l'enrichir au fil du temps, parce qu'il y a un certain nombre de spécialistes qui nous intéressent et qu'on filmera, qu'on mettra en ligne. Il y a aussi sur Internet beaucoup de choses qui ont été écrites par les Canadiens, les Québécois en français, notamment sur le TDAH, qui s'appelle là-bas ADHD ou ADD. Donc on peut véritablement trouver de l'information en ligne. Et ce qui est bien avec cette population, c'est qu'elle a tellement cherché pendant tellement longtemps, en souffrant tellement, que le jour où on lui indique où trouver l'information, elle rattrape son retard rapidement. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir.
Il y a beaucoup d'espoir. On est en ligne avec Aurélien, qui nous appelle de Paris. Bonjour Aurélien.
Oui, bonjour. Alors je vous appelle pour cette question. J'écoute l'émission tout à fait par hasard, et c'est pour moi. Voilà, moi, tous mes cousins sont surdoués, ils ont fait les tests, avec notamment des QI assez élevés. Et alors, à chaque fois que j'écoute des choses sur les surdoués, je m'y retrouve à toutes les cases, hypersensibilité, enfin tout ce qui a été dit. Sauf que je n'arrive pas à me décider à faire le test. Dès que je fais les tests sur Internet, je les rate tous, j'ai été en échec scolaire, mes frères aussi. Et je me demande à quoi ça peut me servir.
Alors, je vais laisser Monique de Kermadec vous répondre. Merci Aurélien.
Vous pressentez quelque part que passer un test vous permettrait d'avoir une confirmation de quelque chose. Et en même temps, vous avez peur que si vous passez un test, vous n'aurez pas cette confirmation. Il serait peut-être important, avant même que de vous engager dans un test, d'essayer de parler avec quelqu'un pour comprendre vos craintes, pour voir ce que vous recherchez sur vous-même, puisque en parlant de la précocité de vos cousins, vous semblez vous mettre indirectement en compétition avec ses cousins, ce qui serait dommage. Vous avez certainement des talents qui sont les vôtres, qui ne sont pas exactement ceux de vos cousins. Il est important que vous puissiez découvrir quelles sont ces capacités, ces talents qui vous appartiennent et comment les investir au mieux. Donc, même si vous avez peur actuellement, ne vous sentez pas obligé de vous précipiter tout de suite dans un test. Commencez par aborder le sujet avec quelqu'un qui vous permettra de dédramatiser la démarche.
Oui, et là encore, double démarche, c'est-à-dire vous faire accompagner. Vous n'avez absolument pas besoin d'être testé pour vous informer sur le sujet. Sur Internet, allez voir les vidéos, lisez les articles. Il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles. Et puis évidemment, Monique qui est en face, qui a écrit un excellent livre, lisez-le. Voilà, donc il y a de la littérature. Il y a plusieurs auteurs, donc. Qui peuvent être lus, je pense que c'est pas un investissement que vous regretterez.
Alors, surtout, ne restez pas sans rien faire. Je vous en prie, ne restez pas avec votre inconfort. Ça me paraît important.
Alors, oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Aurélien. Est-ce que vous avez une autre question?
En tout cas, je veux... Comment dire? Où faire le test?
Alors,
je me décide parce que je me suis quand même informé et, bon, j'ai pas non plus envie de passer ma vie dessus... Ce serait en fait juste pour savoir, tout simplement, pour être libéré de cette pensée que je ne cherche pas, ni en compétition.
Oui. Je vous ai dit 80% de génétique, donc je veux dire, la réponse, vous l'avez déjà. Si vous vous retrouvez, l'important c'est plus de vous retrouver dans une population et d'une façon d'être et de savoir comment mener votre vie. Donc voilà, vous avez tous les éléments grâce aux nouvelles technologies pour vous conforter. Et moi, je connais un tas de gens qui n'ont pas voulu passer le test parce que comme le racontent certains auteurs, c'est difficile, c'est une remise en cause. C'est pardon. Et en plus, comme je le disais, si on est un petit peu anxieux, ben on se saborde. On se saborde, pourquoi? Alors je vais quand même expliquer, Samy de Rosière, pourquoi. C'est parce que c'est beaucoup plus confortant d'être avec les 98%. Quand on a voulu toute sa vie appartenir et que c'était pas toujours facile, bah c'est vrai que se retrouver comme ça, avec « normal », entre guillemets, c'est plus confortable que d'être surdoué.
C'est plus facile, Monique de Kermadec?
Vous voulez dire par plus facile, Sabine?
C'est plus facile de faire partie des 98%.
Non, moi je tiens à me battre pour les surdoués. Et je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Si on se pose la question, si on se reconnaît, il ne faut absolument pas hésiter à consulter, à passer un test éventuellement. Il faut se sentir confortable avec soi-même.
Eh bien écoutez, un grand merci à tous les deux d'être venus parler des adultes surdoués. Monique de Kermadec, je rappelle que vous venez d'écrire un qui s'appelle « L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué » chez Albin Michel et Thierry Brunel, responsable de la communication externe de Mensa France, M-E-N-S-A.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de Clément Soudaille à 10h et 18h15. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque d'Île-de-France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h et 18h15.
Il est encore temps de vous inscrire à la 86e session des Semaines sociales de France sur la démocratie, une idée.